Bonsoir, merci d'être là. Tout. Je vois qu'il y a en plus beaucoup d'étudiants, c'est formidable. Quelqu'un me disait, tiens, le public de Durkheim se rajeunit, donc ça c'est formidable. Avant de laisser la parole à Mathieu Béra et à Jean-Patrice Lacan, que je remercie d'avoir bien voulu animer cette rencontre, je voulais juste vous dire un petit mot sur quelqu'un qui devait être là ce soir avec nous, qui est François Hubert, qui est le conservateur en chef du musée d'Aquitaine, et qui est un peu à, Mathieu reviendra dessus tout à l'heure, mais qui est un peu à l'origine de ce livre, puisque c'est une exposition qui a eu lieu en 2012, si je me rappelle bien, en 2012, donc sur Durkheim à Bordeaux, au musée d'Aquitaine, qui est l'ancienne fac de sciences et de lettres, où ah ben, voilà, comme quoi, quand on...
quand on parle de vous.
Voilà, alors voilà François Hubert. Je disais quelque chose sur toi. Voilà. Mais d'ailleurs, alors du coup, je vais lui laisser ma place et il va peut-être vous dire deux mots. Tu veux pas dire deux mots ? Bon, alors il voudra pas dire deux mots. Donc on va vous passer directement la parole. Merci encore.
Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc c'est avec plaisir que je vais animer la discussion avec Mathieu Béra, qui est donc l'auteur d'Émile Durkheim à Bordeaux. Celui ou celle qui n'a pas encore lu cet ouvrage peut-être dira, tiens, un autre livre consacré à Durkheim, sous-entendu un livre de plus, sans doute un livre qui compile des connaissances déjà largement acquises et dont l'apport sera marginal, donc finalement à quoi bon l'acheter ? Mais moi qui ai lu le livre et relu pour préparer cette conférence, moi je peux dire que, tiens, c'est un livre autre consacré à Émile Durkheim. C'est-à-dire que c'est un livre qui sort du lot, qui est différent, qui est très original. Et je pense que c'est un ouvrage qui mérite notre intérêt. Et je pense que le but de la conversation que nous allons avoir ensemble, c'est justement de vous montrer l'intérêt de ce livre, Émile Durkheim à Bordeaux, 1887-1902. Alors, première question, quand j'ai lu cet ouvrage, moi qui ai commencé mes études en 1974 à la fois à Sciences Po et au département de sociologie de Bordeaux 2, la question que je me suis posée et que je pose à Mathieu, c'est comment se fait-il qu'on ait attendu si longtemps pour écrire et publier un ouvrage sur Durkheim à Bordeaux, alors qu'il est resté 15 ans ici et qu'il y a publié 3 de ses 4 grands livres. Je laisse de côté la thèse latine sur Montesquieu, mais 3 de ses grands livres, il y a lancé l'année sociologique, et il a donc enseigné 15 ans. Alors pourquoi ce désintérêt jusqu'à toi? On se tutoie, hein?
Oui, on se connaît
on
bien.
On se connaît depuis 15 ans, tiens.
Et oui, ça fait 15 ans que je suis prof à Bordeaux. Donc, pourquoi bon, c'est une question à laquelle je ne réponds pas dans le livre, hein, mais j'ai ma petite idée. D'abord, je pense que Durkheim lui-même... avait pas une relation très, très facile avec Bordeaux. C'était quelqu'un qui venait de l'Est, il venait d'Épinal. Après, il a fait ses études à Paris, à l'École normale supérieure. Et après, il a été, donc, quand il a eu l'agrégation en 82, il a été prof, il a tourné un petit peu dans 5 lycées de province. Et finalement, il a eu cette promotion un peu inattendue et très espérée par lui sur Bordeaux. Et il n'a pas vraiment regardé autour de lui quand il est arrivé à Bordeaux. Parce que Bordeaux, c'était d'abord l'occasion de faire ce qu'il voulait faire, finir sa thèse, faire des sciences sociales. Et il ne pensait pas qu'il y resterait. On en a un peu les preuves parce qu'à deux reprises, on a les preuves écrites, on a des lettres. Il a essayé de partir. Dès qu'il a eu sa thèse, courrier pour partir en 93. Maintenant que j'ai eu ma thèse, est-ce que j'ai le droit de partir? Lettre au directeur de l'enseignement supérieur, refus. Deuxième tentative, toujours en 93, est-ce que alors du coup je peux aller à Nancy? Il avait envie de revenir voir sa famille qui était d'Épinal, refus, enfin pas de réponse. Et puis en 96, il a fait une nouvelle tentative une fois qu'il a été titularisé comme professeur à Bordeaux. Il a postulé au Collège de France à Paris et c'est Tarde, Gabriel Tarde, qui a eu le poste. Donc il a pris son mal en patience. Est arrivé par-dessus l'affaire Dreyfus, dans laquelle il s'est engagé à Bordeaux et il a été extrêmement déçu par ses collègues bordelais, qui étaient parfois antisémites et anti-dreyfusards. Il y a même une sorte de putsch à l'Assemblée des professeurs. Il y avait un doyen qui était plutôt pro-Dreyfus, qui était Stapfer, et qui a été évincé du conseil de l'Assemblée par un historien qui s'appelle Radé, qui est devenu le doyen à sa place, qui était sans doute plutôt anti-Dreyfusard. Et donc il y a eu une mauvaise ambiance à partir de 1999-1900. Durkheim s'est de plus en plus senti mal dans Bordeaux. Et quand il a finalement demandé sa mutation en 1902 à nouveau, sachant qu'il y avait un poste qui se libérait à la Sorbonne en sciences de l'éducation, qui n'était pas une matière qui lui plaisait beaucoup, mais il enseignait la pédagogie depuis 15 ans à Bordeaux, il a tenté sa chance et il a réussi à partir comme remplaçant. Donc en fait, Durkheim, je dirais, il n'était pas très très... Il n'aimait pas beaucoup Bordeaux.
Mais ça n'explique pas pourquoi à
Alors,
Bordeaux,
c'est la deuxième partie de
finalement,
ma
voilà,
réponse. Je suis un peu long, excuse-moi.
on s'est pas intéressé à Durkheim.
Mais d'un autre côté,
Puisque
lui,
c'est un Parisien, Mathieu Béra, qui s'intéresse à
il
Durkheim
faut pas
à
le dire.
Bordeaux.
C'est vrai, mais ça, c'est l'autre histoire. Mais disons que donc Durkheim n'a jamais parlé, si tu veux, de Bordeaux après, quoi. Il n'a eu aucune nostalgie apparente. Et je pense qu'ensuite, il n'a pas été aidé par ce qui s'est passé. Enfin, Bordeaux n'a jamais organisé la mémoire de Durkheim parce qu'il a été remplacé en 1902 par Gaston Richard. Et Gaston Richard, qui était plutôt un ami de Durkheim, qui a écrit avec lui dans l'année sociologique. Gaston Richard, en fait, a rompu avec les Durkheimiens de l'année sociologique 4 ans plus tard, 4 ans après avoir pris la succession de Durkheim. Et il est devenu l'ennemi juré de Durkheim jusqu'en 1930, quand même. Donc à Bordeaux, il y avait des anti-Durkheimiens dès le départ, quasiment, de Durkheim. Et puis après, il y a toute une tradition, à partir de 1930, d'anti-Durkheimiens très connus. Bon, je ne vais pas citer des noms parce que ça va vous saouler, mais. Des gens comme Stotzel, qui est arrivé en 44, qui était le directeur de thèse de Boudon. Donc Boudon, ça vous dira peut-être quelque chose. Stotzel, qui a fait un discours inaugural à Bordeaux en 45, complètement anti-durkheimien, en disant qu'il fallait oublier Durkheim. Donc voilà, pour la mémoire, c'était un peu difficile.
D'accord, ça c'est
Ça
pour
te
les
plaît plus,
sociologues,
ça?
mais on aurait pu penser que des historiens du monde universitaire bordelais de Bordeaux se seraient intéressés à Durkheim. Or, visiblement, alors il y a un juriste, je sais, qui fait référence, mais
Alors, il y a
des historiens.
effectivement à Bordeaux, à ma connaissance, il y a Marc Malherbe qui est un historien de la faculté de droit. Durkheim est à la faculté de lettres. Alors, des historiens de la faculté de lettres, il y a Bernard Lachaise qui a écrit un livre, mais qui n'a pas vraiment fait des enquêtes approfondies. Il y a une étudiante, Elsa Clavel, qui a écrit 10 pages dans le livre, qui fait une histoire de la faculté de lettres, et là qui évidemment a trouvé
Qui croise
Durkheim.
Durkheim.
Mais si tu veux, Durkheim. Parmi d'autres, parmi donc faculté de lettres et de sciences, hein, c'est l'actuel musée d'Aquitaine. Donc les collègues de Durkheim, c'était des profs de littérature, des profs d'histoire, comme Camille Julian, qui eux ont fait une histoire de Bordeaux. C'est quand même une autre dimension pour Bordeaux. Et Durkheim, lui, il n'a jamais rien écrit sur Bordeaux.
Donc très bien. Il a fallu que tu arrives donc pour que on écrive Durkheim à Bordeaux.
Ouais,
Alors,
mais ça, c'est pas l'explication. C'est vrai, il a
deuxième
fallu que
question.
j'arrive.
Ah non, mais ça me permet de rebondir et de lancer ma deuxième question. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la genèse de ce livre? C'est-à-dire pourquoi toi, tu t'es intéressé à Durkheim à Bordeaux? Réponse.
Oh là là, y a de multiples réponses à ça, mais disons que de manière assez bon, d'un point de vue personnel, moi j'étais plutôt sociologue de l'art, je viens de la sociologie de l'art, et je me suis lassé au bout d'une dizaine d'années de fréquenter les sociologues de l'art, qui étaient des gens plutôt désagréables, et j'ai pas réussi à m'intégrer, pour reprendre un terme durkheimien, dans ce milieu. Et je me suis dit, comment m'intégrer alors dans cette discipline qui est la mienne, puisque je suis sociologue. Et je me suis dit, bon, je suis sociologue, je suis à Bordeaux. Qui est-ce qui était sociologue à Bordeaux? Qu'est-ce que la sociologie? À quoi sert la sociologie? Je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Durkheim était sociologue à Bordeaux, c'est le fondateur de la sociologie, je vais m'intéresser à lui. Et en m'intéressant au fondateur de la socio, je vais peut-être comprendre pourquoi je suis sociologue, et pourquoi j'ai envie de continuer à faire ça. Et ça a bien marché, en fait. Je me suis réinvesti dans mon rôle de sociologue en essayant de trouver l'origine de la sociologie en France. Donc ça, c'est un peu la genèse lointaine. Ça date de 2007-2008, où j'ai commencé à chercher où habiter Durkheim, tout simplement. Commencer par des trucs très matériels, très stables, parce que j'avais un projet de faire une bande dessinée, en fait, sur Durkheim. Et faire la bande dessinée d'un savant, c'est pas évident, parce que le savant, il reste tout le temps à bouquiner, à écrire. Et donc, il fallait au moins que je connaisse son bureau. Donc, j'ai cherché les maisons, et là, c'était une enquête hyper compliquée, parce qu'il habitait dans des boulevards qui ont changé 3 fois de nom, 5 fois de numérotation, etc. Et bon, j'ai fini par les trouver. Il y a d'ailleurs Madame Marie Guy qui est dans cette salle, qui est la propriétaire d'une des maisons de Durkheim, qui est au 60 avenue Roosevelt. Il y a une photo dans le bouquin. J'ai pu voir, donc, j'ai pu pénétrer dans les lieux où habitait Durkheim entre 1897 et 1902, parce qu'il a eu 2 habitations à Bordeaux. Donc, si vous voyez le café de l'horloge à Saint-Genès, donc à 5 numéros. Il a habité là pendant 10 ans, c'est là qu'il a écrit la plupart de ses livres. Sa thèse, les règles de la méthode sociologique, le suicide. Et après, il a déménagé de l'autre côté du boulevard, où il a plus rien écrit en ouvrage, mais il a dirigé les 5 premiers numéros de l'année sociologique. Donc c'était aussi très très important. Donc voilà.
Les bonnes raisons qui t'ont amené à écrire Émile Durkheim à Bordeaux.
Et alors, de manière plus immédiate, comme le disait Eric Audinet, qui est mon éditeur, en 2012, je me suis décidé à organiser un colloque pour le centenaire du dernier ouvrage de Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Et c'était un colloque qui durait 3 jours. Et je voulais qu'il y ait du sens à le commémorer dans Bordeaux. Ce qui n'était pas évident, parce que c'était un ouvrage parisien. C'était le dernier qu'il a écrit à Paris. Donc il fallait que j'essaye de trouver des entrées. Et je l'explique un peu dans le dernier passage du livre. Durkheim a beaucoup réfléchi à la religion dès qu'il était à Bordeaux. En fait, il a eu à cette époque, il a fait son premier cours en 94-95 sur la religion. Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire au moins une journée du colloque dans l'ancienne fac, qui est maintenant le musée d'Aquitaine. Donc j'ai contacté François Hubert, qui est le directeur, qui lui-même a fait des études d'ethnologie et qui avait lu les formes élémentaires de la vie religieuse. Donc ça lui a tout de suite plu. Et pendant une journée, on était dans le musée, on a pu faire un historique de cette ancienne faculté. Donc sur la couverture, en fait, vous avez une couverture qui a été conçue par mon éditeur, qui est une très belle couverture, je trouve. Vous avez une photo de la bibliothèque qui est toujours en partie en état dans le musée d'Aquitaine. Il y a toujours une bibliothèque au musée d'Aquitaine. Mais ils ont mis, en fait, ça a été refait, il y a un étage, donc tout le bas a été supprimé. Mais la bibliothèque garde encore l'étage du dessus avec les mêmes rayonnages. Alors, je pense que les collections de bouquins ont complètement changé, par contre. Là, c'est devenu une bibliothèque d'histoire de l'art, c'est ça, d'après ce que j'ai compris, histoire archéo-ethno. Et donc voilà, il y a une journée comme ça au colloque. Et François Hubert m'a proposé aussi, il m'a laissé un espace, il m'a dit, là, tu peux, si tu veux, profites-en pour mettre des documents que tu as accumulés depuis que tu es là. Et je me suis pris au jeu. Alors, il y a eu deux conservateurs, enfin, il y a Paul Mataran, un conservateur, et puis Philippe Chauveau, le responsable des relations avec le public, qui m'ont aidé à monter une exposition en un mois. Ça a été super rapide. Et qui tournait autour d'une frise, les 15 ans de Durkheim à Bordeaux, avec des photos, des documents d'archives que j'avais repérés aux archives municipales, aux archives départementales, etc. Et donc, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus visuel. Ce qui explique que dans ce livre, et c'est l'un des apports de ce livre par rapport à tous les livres qui existent sur Durkheim que je connais, je crois que je les connais tous, qu'ils soient français ou internationaux, et ben il y a des photos, en fait. Il y a 70 photos dans ce bouquin, et pour moi, c'est fondamental. Enfin, je trouve que ça manque beaucoup dans les livres sur les savants ou d'histoire en général. Il y a toute une iconographie donc, qui prend sa genèse dans cette exposition.
Que j'ai beaucoup apprécié.
T'as apprécié
en
les photos
lisant et en relisant cet ouvrage.
Je pense que ça rend accessible.
C'est évidemment un plus. Alors, ma troisième question, si tu as fini la réponse à la deuxième, oui.
Ouais, oui, ouais. C'est pour en parler pendant
Troisième question, mais... elle va porter sur la nature de ce livre. C'est un livre d'histoire ou un livre de sociologie?
Donc tu me demandes est-ce que je suis un historien ou est-ce que je suis un sociologue, c'est ça?
Tu t'es présenté comme sociologue, j'ai eu le sentiment de lire un livre d'histoire.
Alors en quatrième de couverture où j'ai rédigé la petite note, j'ai fait une pirouette et j'ai dit que j'étais un historien de cette discipline, donc un historien de la sociologie. Donc tu vois, je suis un peu les deux, mais c'est vrai que j'ai l'impression depuis 2-3 ans d'être plutôt un historien, notamment dans la méthode. Je découvre en fait quelque chose que je ne connaissais pas du tout quand j'étais sociologue, où je faisais des entretiens, où je faisais des observations. J'ai découvert les archives, tout simplement. Donc j'ai passé toute l'année, là, tous mes lundis, aux archives départementales, à dépouiller les 16 000 dossiers d'étudiants de lettres depuis 1860. J'exagère, 1870 jusqu'à 1950. Pour essayer de retrouver les étudiants de Durkheim. Et sur ces 16 000 dossiers, j'en ai trouvé 150 à peu près, donc ils vont faire l'objet d'un livre prochain, je pense que ça va être mon prochain livre, Les étudiants de Durkheim à Bordeaux. Et là, j'ai mis juste une liste provisoire.
Là, tu me coupes l'herbe sous les pieds, parce que le final, c'était de demander, voilà, est-ce qu'il y aurait un tome 2, voilà, Durkheim à Bordeaux, livre 2, j'ai compris, mais on en reparlera.
Voilà, le tome 2, ça ne sera pas Durkheim à Paris.
Bon, donc c'est un livre d'historien.
Pas tout de suite. C'est un livre, donc au niveau de la méthode, je pense que c'est un livre d'historien. Ouais. J'ai vraiment pris plaisir à découvrir les archives. En cherchant la maison, hein, tout a commencé avec la maison où j'ai vu les registres de recensement de la population. Il y a des extraits, il y a des photos qui sont dans le bouquin, où j'ai vu tout simplement, ça m'a permis de voir que Durkheim, ça m'a permis de voir deux choses qui ont été l'occasion d'écrire deux articles. Voir d'abord que Durkheim, quand il se présentait à l'agent recenseur, se présentait quelquefois sous le nom d'Émile, et quelquefois sous le nom de David, enfin le prénom de David et d'Émile. Alors là, j'ai écrit 20 pages sur pourquoi David, pourquoi Émile, etc., sachant que David, c'était son prénom hébraïque. Il est fils de rabbin, et Émile, c'est son prénom d'usage, en fait, depuis qu'il est tout petit. Donc voilà, j'ai un peu glosé sur son identité religieuse. Et ça, bon, voilà, c'est le genre de choses qu'on trouve dans aucun livre, parce qu'en fait, il y a les biographes qui sont les deux grands biographes de Durkheim, qui sont très très forts, ont raté des détails. Ça, c'est des petits détails. Fournier qui a écrit 1000 pages, Marcel Fournier qui a écrit 1000 pages sur Durkheim, qui est vraiment très très fort, mais qui a balayé toute la vie de Durkheim, c'est un truc énorme, il n'a pas vu que Durkheim avait changé de prénom, il n'a pas vu, en fait il n'a pas regardé, tout simplement, il me l'a dit, hein, il n'a pas regardé, il n'a pas pensé à regarder les registres de recensement de la population. Voilà, ça c'est les trucs que j'ai pu faire parce que moi j'habite à Bordeaux et je prends du temps pour faire des choses comme ça.
Très bien. J'ai une question maintenant sur les objectifs de l'ouvrage.
Oui, mais j'ai pas fini parce que là, j'ai dit que j'ai fait croire que j'étais historien, mais quand même, je te rappelle que je suis sociologue, tu le sais très bien.
Oui, oui, oui.
Et notamment mon titre, hein, c'est docteur en sociologie, maître de conférences en sociologie, peut-être un jour professeur de sociologie. Et j'utilise beaucoup les notions de sociologie pour avancer en historien. Des notions comme la notion de sociabilité, par exemple, j'essaye de comprendre quelle est la sociabilité universitaire, donc c'est-à-dire l'ensemble des relations que les profs ont avec les autres profs, que les étudiants ont avec leurs profs. Voilà, ça, c'est une notion sociologique. Voilà, c'est tout. C'était juste une petite... Je rappelais quand même que j'étais un peu sociologue.
Oui. Bon, alors, les objectifs de cet ouvrage.
Les objectifs de cet ouvrage.
Que tu poursuis à travers cet ouvrage. La nature, c'est un ouvrage d'histoire, mais nourri de concepts sociologiques.
D'histoire sociologique.
Oui. D'histoire sociologique, nourri de concepts sociologiques. Et les objectifs poursuivis, alors, qu'est-ce que tu as essayé d'atteindre comme but à travers cet ouvrage? Ils peuvent être divers.
Je pense notamment à un but, je vais revenir là-dessus, mais un but didactique. Je pense que pour rentrer dans un auteur, ça c'est mon expérience personnelle, il est bon de connaître sa vie privée, savoir qu'il avait une femme, deux enfants, deux domestiques, des petits trucs comme ça, qu'il habitait dans une maison, que son bureau était dans sa maison, que dans la fac de lettres, il n'y avait pas de bureau pour les professeurs, donc forcément il allait travailler chez lui. Savoir qu'il empruntait des livres dont j'ai retrouvé avec un collègue les registres d'emprunt. Donc on peut travailler sur les emprunts d'ouvrage et c'est pour ça que la bibliothèque est si importante en couverture. La vie d'un savant, enfin, d'un savant comme Durkheim, d'un philosophe, c'est la vie, c'est une vie de lecture essentiellement. Et voilà, ça j'ai pu l'approcher. Et je pense que c'est pas quand on lit les biographies intellectuelles de Stephen Lux, qui est en anglais, ou de Fournier, qui est en français, on ne voit pas trop ça. Donc j'ai voulu montrer des choses qu'on ne voit pas et qui me paraissent plus didactiques, qui me paraissent plus faciles pour rentrer dans un auteur. Enfin, dans
Voilà.
mon esprit, j'ai toujours eu le souci de mes étudiants. Je suis un professeur, je viens du secondaire, et j'aime bien montrer des images, avec le PowerPoint maintenant, depuis quelques années, de montrer des images à mes étudiants, leur montrer, souvent quand j'allume l'ordi dans l'amphi, je commence par une image, je sais pas, de la bibliothèque de droit, ou la bibliothèque de lettres, la bibliothèque de médecine, et puis je leur dis, c'est quoi ça? Et voilà, tu vois, enfin, je pense qu'ils retiennent beaucoup de choses comme ça.
Donc
Bon, c'est quand même
l'objectif.
une génération. Moi, je m'adresse, si tu veux, au quotidien à une génération de visuels.
D'accord.
Et je suis moi-même visuel, je pense. Je suis très visuel.
Donc l'objectif, c'est permettre un accès à l'œuvre, parce qu'au final, il faut quand même que ton public
Bien sûr.
découvre l'œuvre de Durkheim, c'est essentiel, mais en passant par la connaissance de l'homme dans sa vie privée, c'est la première partie de ton livre, et dans la vie professionnelle, c'est la seconde partie du livre. D'accord?
Voilà
Est-ce
que.
qu'il y a
Ouais.
d'autres objectifs poursuivis?
Alors, je m'inspire pas mal de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropologie intellectuelle. C'est essayer de comprendre ce que c'est qu'un savant au travail. Et ça, je pense que les étudiants d'aujourd'hui ne s'en rendent pas compte, et même peut-être les professeurs, que c'était, enfin, que des gens comme Durkheim et ses collègues étaient des acharnés, en fait. Ils travaillaient 10 heures par jour, ils s'arrêtaient jamais. Et là, il y a une double page que j'ai réussi à défendre en dépit des protestations de mon éditeur. Une discussion, il a fallu que j'argumente. Enfin, il y a une double page comme ça qui est assez étonnante. Il m'a dit, mais non, tu vas pas mettre ça, mais si, bon. Et c'est une double page où apparaissent, c'est la bibliographie de tous les ouvrages qu'il a recensés en 5 ans. Il y en a 300. Tous ceux qu'il a recensés dans l'année sociologique. Donc c'est une double page assez impressionnante. Et je pense que visuellement, c'est assez intéressant. Voilà, donc ça s'appelle l'anthropologie du travail intellectuel. Et de même, rechercher les lectures qu'il a faites à la bibliothèque, hein, grâce au registre, voir les livres qu'il empruntait, son rythme d'emprunt, il y a 4 pages dans le bouquin là-dessus. C'est aussi très intéressant, voir qu'il lisait, bien sûr, ce que pouvait lui apporter la bibliothèque.
Et est-ce qu'au-delà de Durkheim à Bordeaux, sa vie privée, sa vie professionnelle, tu as cherché aussi à montrer finalement quelles étaient les conditions de vie et de travail d'un universitaire en province, à Bordeaux, au tournant du 19e et du 20e siècle? Est-ce que Durkheim est aussi un point d'entrée dans la vie universitaire bordelaise?
Alors, la vie universitaire, oui, bordelaise en particulier, je ne saurais pas dire, il faudrait faire des comparatifs, ce qui suppose de lire d'autres historiens de la vie universitaire. Il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai fait des recherches là-dessus. Il y a un spécialiste de la vie universitaire à cette époque qui s'appelle Condette, hein, je ne me souviens plus de son prénom, qui a écrit beaucoup sur la faculté de Lille. La thèse est à la bibliothèque de Bordeaux, c'est une thèse en 3 volumes qui fait 2000 pages. Et donc c'est assez impressionnant. Donc il faut avoir des comparatifs, il n'y en a pas des masses. Mais par contre, il existe des ouvrages sur la vie universitaire à cette époque, de Christophe Charles notamment, qui est un grand historien de ce genre de choses. Il a lui-même enquêté sur la fortune personnelle des Durkheim. Il a écrit un article qui s'appelle Le beau mariage de Durkheim, parce que Durkheim s'est marié avec une femme plutôt très riche. Et ça l'a sans doute pas mal aidé. Voilà, sur la vie universitaire. Donc, il y a des passages dans le livre où je suis très matériel, matérialiste, hein, et je dis, voilà, il gagnait tant, il est passé à tel échelon, il a gagné tant, etc. Et puis, il est parti à Paris, son salaire a doublé. Il faut savoir que, voilà, il y avait des grilles à l'époque, on distinguait province-Paris. Et quand on passait à Paris, on passait de 6 000 à 12 000. Comme ça peut être motivant quand même. 12 000, alors, ça veut dire 12 000 francs. De cette époque, c'est 12 000 francs or annuel. C'était des salaires comme ça, c'est un gros salaire. Il a commencé quand il a commencé, je crois, à 4 000. 4 000 francs. Il faut savoir qu'un instituteur, à l'époque, c'était 1 000 francs par an. Et moi, je donne des comparatifs un peu, il y a un moment, avec d'autres métiers. Un conducteur de tram, parce qu'on construisait les trams à l'époque, un conducteur de tram, c'était, je crois qu'il tournait à 100 francs par an. Vous voyez, il y avait des écarts de salaire énormes en fait en 1900.
Ils se sont resserrés.
Et oui, qui se sont complètement resserrés, parce que si on compare nos salaires aux conducteurs de tram, je pense que on va être déçus, oui.
D'accord. Donc on peut dire que Durkheim, finalement, est typique du savant universitaire de cette époque à Bordeaux.
Je l'ai pris comme tel, oui, je pense que
D'accord.
c'est un bon exemple idéal typique.
Voilà, j'osais pas le dire parce qu'il ne faut pas être trop
Parce que c'est une
sociologue.
expression de Weber, alors.
Voilà. Il ne faut pas mélanger les genres. Autre question maintenant, quelle est ta valeur ajoutée, enfin, la valeur ajoutée de cet ouvrage, et de toi à travers cet ouvrage, par rapport aux deux spécialistes de la vie et de l'œuvre de Durkheim que tu as cité précédemment?
Je pense que j'ai un petit peu répondu. Déjà,
Oui, mais tu peux recommencer.
c'est mon métier de
Oui,
professeur, de rabâcher un peu
il est développé aussi.
et de développer. Écoute, je pense que la valeur ajoutée de ce livre, c'est l'iconographie. J'y insiste. J'y insiste.
Que l'iconographie, moi j'ai l'impression que il y a quand même autre chose.
Oui, vas-y, aide-moi. Parce que toi, tu es un lecteur, c'est intéressant aussi le point de vue du lecteur. Tu as un hyper-lecteur, même, comme on dit.
Pourquoi un hyperlecteur? Parce
Parce
que
que
je
tu
l'ai
as
lu
lu
deux
trois
fois, trois
fois.
fois.
tu l'as lu trois fois avec un œil très, très pertinent. Donc, c'est le lecteur dont on rêve quand on écrit un livre.
Moi, je ne sais pas si les deux auteurs que tu as cités précédemment se sont intéressés autant que toi à la vie privée. Je pense au cas de son épouse Louise, qui visiblement a joué un rôle dans la production de son œuvre. Je n'avais pas le sentiment de l'avoir lu ailleurs.
Alors,
Cette
donc,
Louise, la secrétaire en quelque sorte.
pour les gens qui écoutent, donc il y a deux grands biographes de Durkheim. Il y a Stephen Lux, qui a écrit sa thèse en 68. C'est quelqu'un qui est toujours vivant. Je viens de lui envoyer un mail pour lui demander son adresse, pour lui envoyer le livre. Il habite New York. Et son livre est extraordinaire. C'est un livre de référence. Il n'a jamais été traduit en français, comme par hasard. Les Français détestent traduire les Anglais, donc il faut le lire en anglais. C'est un livre de poche, hein, il est en poche. Il appelle ça une biographie intellectuelle. Donc il s'intéresse, c'est très thématique. Hein, et puis il prend quasiment le fil des cours de Durkheim. Fournier, en revanche, et d'ailleurs il est pas mal décrié dans la communauté des sociologues, hein, en messe basse bien sûr, jamais officiellement, c'est la technique. Fournier est quelqu'un qui s'intéresse à la vie privée, qui s'est beaucoup intéressé notamment au judaïsme de Durkheim, au fait que Durkheim avait un père rabbin. Et donc il a fait un colloque en 2008 sur la jeunesse de Durkheim, qui va paraître bientôt. Ça s'appelle Durkheim avant Durkheim. Donc c'est quand même en lisant Fournier que je me suis intéressé à la vie privée. Mais c'est vrai que j'ai creusé comme je disais tout à l'heure, j'ai pu creuser des choses qu'il n'avait pas creusées. Notamment sur Louise, donc j'ai eu des éclairages, parce que sur Louise, qui est la femme de Durkheim, on ne sait rien, comme souvent sur les grands hommes. Et moi, je pensais que c'était la femme au foyer de base, qui faisait la cuisine, qui s'occupait des enfants, qui faisait le ménage.
Avec la domesticité qu'elle avait, je
Eh
pense
bien
qu'elle
oui, mais je ne
devait.
le savais pas, c'était dans
Ah,
aucun
elle devait pas
bouquin.
faire trop souvent la cuisine.
Et quand j'ai découvert qu'il y avait deux domestiques, dès leur installation de jeune couple, quand ils arrivent en 87, hein, ils ont déjà deux domestiques. Pour un couple et un enfant qui n'est pas encore né, je me suis dit, wow, elle ne faisait pas le ménage, hein, elle ne faisait pas la cuisine. Hein. Et en plus, quand sa fille est née, donc un an après, il y avait une nourrice. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle faisait ? Ben, j'en ai fini par... j'ai recoupé avec les témoignages de Mauss, le neveu de Durkheim. Je me suis dit, ben, c'était la secrétaire de Durkheim. Et ça se confirme par plusieurs témoignages assez rares. En fait, elle recopiait, elle corrigeait les épreuves, elle recopiait ses cours, elle assistait à ses cours, elle les prenait en note. En fait, elle avait un boulot intellectuel derrière, d'assistante, plus que secrétaire, je dirais, d'assistante. Et là, il y aurait vraiment un bel article à écrire sur Louise, mais il y a très peu de données.
D'accord. Toujours dans les aspects qui m'ont semblé originaux par rapport aux travaux que j'ai parcourus sur la vie et l'œuvre d'Émile Durkheim, j'ai trouvé toute la recherche que tu as menée sur ces étudiants. Tu en parlais tout à l'heure, hein, oui. 16 000 dossiers d'étudiants passés en revue. Je suppose que les auteurs que tu as cités n'ont pas fait ce travail-là.
Non.
Alors, qu'est-ce que tu as découvert ? Combien étaient-ils, ces étudiants ? Parce qu'aujourd'hui, on est habitué à avoir des grands amphis, au moins en premier cycle. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Moi, je suis tombé de haut quand j'ai... Je m'imaginais que Durkheim avait devant lui des amphithéâtres volumineux, en fait.
Alors justement, c'est intéressant, l'iconographie.
Oui.
J'ai retrouvé donc dans ce qu'on appelle l'album Terpereau, qui est au musée d'Aquitaine, il y a des photos de la faculté qui vient d'être bâtie en 1886, où on voit effectivement, donc page 84, il y a ce qu'on appelle le grand amphi, bon, qui est un amphi assez classique, hein, avec, je ne sais pas combien de places, je n'ai pas compté les places, mais à mon avis, ils le disent dans le projet de l'architecte, il doit y avoir 200 places ou un truc comme ça, un peu plus, 300.
Il les remplissait ?
Alors, surtout moi, alors il y a des rapports des doyens qui disent que quelquefois il y avait 50 étudiants, ce qui était vraiment un truc visiblement énorme. Et il y a une photo du petit amphi, ça s'appelle le petit amphi de lettres, où là, il y a plutôt place pour, on appellerait ça un TD en fait, hein, aujourd'hui. Alors, en fait, j'ai réussi à reconstruire toutes les promos de Durkheim, en partant du principe qu'il avait essentiellement les étudiants de philo. Il y avait à la fac de lettres 200 étudiants, en philo ils étaient 25, dans les grandes années. Il y a eu des années à 15.
Ça veut dire qu'au final, 15 ans à Bordeaux, Durkheim a enseigné à combien d'étudiants ?
Alors,
pas d'étudiants.
A priori, là c'est la science, entre guillemets, en train de se faire. Hein. Oui, je l'ai pas. Mais disons qu'en comptant très large sur 15 ans d'enseignement, il a rencontré 200 étudiants. Voilà. Non, mais ce que nous, on rencontre en une année.
Sans dire long sur la possibilité de diffusion, finalement, de son œuvre. Quand pendant 15 ans, on ne rencontre que 200 personnes, on ne peut pas avoir, je veux dire, une croissance rapide et importante.
Voilà. Après, il faut étudier ce que sont devenus ces étudiants. Donc, c'est aussi un travail que j'essaye de commencer à mener. Mais c'est un boulot énorme. Mettons, j'ai 200 personnes. Il faut retrouver, par des méthodes généalogiques, leurs descendants, déjà, actuels. Et quand on a les descendants, essayer de reconstruire la vie de ces gens-là, de leurs ancêtres. C'est-à-dire que par exemple, il y avait Cachin comme prof, qui est devenu le chef du Parti communiste. Enfin, en tout cas, pas du Parti communiste, mais au congrès de Tours, c'était l'option communiste avec Jules Guesde contre Jaurès, si je ne me trompe pas. Ou contre, c'était Léon Blum ou contre Jaurès.
contre la Jaurès. Réponse.
Donc, je devrais le savoir. En plus, j'ai été voir l'exposition Jaurès, qui est aux Archives nationales en ce moment. Et donc, il avait Cachin comme étudiant. C'est un de ses premiers étudiants, né en 1869. J'ai réussi à trouver ses descendants. J'en ai vu quelques-uns. En fait, c'est... par exemple, j'ai un contact. Je connais quelqu'un qui a, mettons, 70 ans. 70 ans. Et c'était son grand-père. C'est pas si éloigné que ça, en fait. Mais il faut le trouver, quoi. Et malheureusement, je l'ai trouvé, mais ça m'a pas servi à grand-chose parce qu'ils ont... Ils n'ont pas d'archives, ils n'ont pas gardé d'archives, ils n'ont pas déposé dans les archives publiques. Ce que je cherche en particulier, les notes de cours de Cachin. Ça aurait été le jackpot. Parce que Cachin a été élève pendant 6 ans ou 7 ans de Durkheim.
De Donc on peut espérer qu'il y a les cours, les conférences.
Quand même.
Sauf les TD de l'agrégation de philosophie, si, aussi.
Si, si, il a eu sa licence. En fait, il y avait deux diplômes à l'époque. Il a eu sa licence en 2 ans avec Mauss. Ils étaient ensemble. Et puis les 3 années suivantes, il a préparé la grègue. Il l'a raté. Mauss l'a eu.
Est-ce que tu peux dire un mot, justement, en passant par cet intermédiaire, des 3 types d'enseignement que Durkheim a dispensé à Bordeaux?
Alors ça, effectivement, ce n'est pas très clair dans les biographies, notamment celle de Lux, c'est plus clair dans celle de Fournier. Mais en fait, Durkheim enseignait 3 choses dans son service. En fait, il avait 3 heures de cours par semaine. C'était à l'époque, maintenant, un maître de conf et un prof, c'est plutôt 8 heures. Au lycée, c'est 16 heures, ou enfin 15 heures quand on est agrégé et 18 heures quand on a le CAPES. Donc lui, il avait 3 heures. Et les cours commençaient fin novembre, début décembre, et se terminaient officiellement en fin mai. Durkheim, qui était un zélé, mais ils étaient tous zélés, les terminait fin juin. Et après, il y avait tous les examens. Ils faisaient passer le bac à l'époque. Les profs de fac faisaient passer les bacheliers et ils faisaient passer aussi les licenciés. Donc, mettons, ils travaillaient avec les étudiants, tu vois, de novembre à juillet. Et il enseignait 3 cours. Un cours de sciences sociales, qui était le cours où il a développé la sociologie. Donc je donne le tableau, c'est assez connu ça, le tableau des intitulés, mais quasiment tous ont disparu. Les archives privées de Durkheim ont été saccagées par les nazis en 1943, chez les descendants de Durkheim, et du coup on n'a aucune archive privée. Ces cours sont donc perdus pour la plupart. Le seul moyen de les retrouver, c'est donc la technique des étudiants, etc. Mais c'est un truc très long. Et après, il avait un cours de pédagogie, parce qu'il a été nommé un cours de sciences sociales et pédagogie. Donc alors là, il avait plutôt un public d'instit. Et donc là, je ne les ai pas encore bien identifiés. Les 150, c'est plutôt les étudiants de philo. J'ai les noms des instits, mais je n'ai pas encore leur parcours, etc. Et puis, il avait un 3e cours, qui est toujours oublié par les biographes. C'est un cours de préparation des étudiants à l'agrégation de philosophie. C'est avant tout un philosophe, Durkheim. Il avait préparé le NS en 3 ans. Il avait fait 3 ans de NS. Il a été prof de lycée et de philo pendant 5 ans. Et puis il a fait des cours de philo pendant toute sa vie, le tiers de son service. Et là, d'accord, encore, tous les cours ont été perdus. Enfin, il y en a un qui a été retrouvé, le cours qu'il a fait en 94 sur Hobbes, Thomas Hobbes, de Cive, en latin. Parce que l'épreuve d'agrégation, c'était une épreuve de latin, dissertation en latin sur un auteur philosophique, dissertation en grec sur un auteur, et dissertation en français sur les auteurs modernes, Kant, Leibniz, Spinoza. Donc voilà, c'était quand même fondamentalement, il restait philosophe, mais il avait cette possibilité de dégagement sur le public des instits et donc son intérêt pour la pédagogie, et le public plus ouvert sur la sociologie, les sciences sociales.
Donc, toujours dans cette question sur la valeur ajoutée de Béra à travers cet ouvrage, le 3e point que je voudrais aborder, c'est un ouvrage dans lequel il y a du récit et en même temps une thèse. C'est le sentiment que j'ai eu. Un récit, comment vivait-il, comment produisait-il ses cours et son œuvre, dans quelles conditions. Et la thèse qui arrive en fin d'ouvrage, c'est la thèse qui porte sur les formes élémentaires de la vie religieuse. Où tu défends la thèse que finalement, Durkheim a pensé et préparé les formes élémentaires de la vie religieuse, qui est un ouvrage qui va être publié à Paris après son départ.
En 1912.
10 ans après son arrivée à Paris. Et donc tu défends la thèse que finalement, il a tout fait à Bordeaux. De la division du travail social, les règles de la méthode, le suicide d'études de sociologie et les formes élémentaires de la vie religieuse. Alors comment tu pourrais argumenter, parce que je sais qu'il y a un débat là-dessus.
Oui, il y a un
débat. Moi, personnellement, je n'ai pas été, je te l'ai dit, totalement convaincu par l'argumentation, mais ce serait bien de la reprendre.
Parce que je pense que tu forces un peu le trait, tu caricatures. Je ne dis pas qu'il a écrit les formes élémentaires à Bordeaux. Ce que je dis, je rappelle des faits, tout simplement, en historien et en sociologue. Des faits, avant tout des faits, disait Durkheim à son neveu Mauss tout le temps. Il a décidé de s'intéresser vraiment à la religion à Bordeaux en 94-95. Il a fait un cours pendant 1 an, 22 leçons perdues. qu'il faudra absolument retrouver, 22 leçons fondamentales sur l'origine de la religion, où il s'intéresse déjà au peuple primitif, entre guillemets. Et donc ça, c'est la première chose. Il en refait un d'ailleurs en 1900, en 1901, toutes ces années universitaires. Donc il en fait deux. Ensuite, deuxième chose que je rappelle, à Bordeaux, il crée l'année sociologique. Et l'année sociologique, il en rédige 5 numéros, et dans ces 5 numéros, il rédige 3 articles sur la religion, les seuls articles qu'il ait écrits enfin, avant ça, où il insiste sur un fait, c'est que la religion est à l'origine de tout. Il le dit clairement dans la préface de l'année sociologique, préface du numéro 1, préface du numéro 2, il le rabâche à ses collègues et collaborateurs, et à Mauss en particulier, son neveu, à qui il a donné la rubrique sociologie religieuse dans l'année sociologique. Donc c'est à Bordeaux qu'il fait ça. Ensuite, j'ai eu la chance de regarder ce qu'il empruntait comme ouvrage, et il emprunte beaucoup d'ouvrages sur la religion dès 1994-1995. D'anthropologie religieuse, donc je produis le tableau de tout ce qu'il se met à emprunter, qui est quand même un tableau assez intéressant. Ça ne dit pas tout ce qu'il lisait, c'est ce qu'il empruntait, hein, qu'il amenait chez lui, quelquefois un an. Il partait avec un bouquin, normalement c'était 3 mois, c'était le règlement pour les professeurs, et lui il partait avec Charles Taylor, par exemple, Civilisation primitive, il le rendait un an après. Donc voilà, des lectures, écriture d'articles, création de l'année sociologique, préparation de 2 cours sur la religion. Il avait déjà accumulé énormément de matériaux. J'ai pas dit qu'il avait écrit les formes
non,
à Bordeaux.
Non.
C'est toi qui l'as dit.
Les formes élémentaires se dessinèrent à Bordeaux bien avant de prendre leur aspect définitif à Paris.
Voilà. Eh ben, qu'est-ce qui te va pas dans cette thèse?
J'ai lu le chapitre, j'ai eu le sentiment quand même que tu...
Que je ramenais tout à Bordeaux ?
Ouais, oui, tu ramenais un peu tout à Bordeaux et que finalement, comme tu le dis, Bordeaux, ça a été vraiment une période de production intense,
ouais,
au service de son œuvre, tu nous dis, si je ne me trompe pas. Et lorsqu'il est allé à Paris, finalement, son travail est devenu plus collectif. Il a géré l'année sociologique. Il a pris des responsabilités dans l'université,
ouais,
à la Sorbonne. Et de fait, on a l'impression que toute l'œuvre de Bordeaux était... toute l'œuvre de Durkheim était ficelée à Bordeaux et qu'en fait, quand il est allé à Paris...
Il a déroulé quelque chose...
quelque chose qui était déjà...
C'est un peu le sentiment...
J'ai eu le sentiment largement préparé à Bordeaux.
C'est un peu le sentiment que j'ai, mais c'est vrai que c'est peut-être déformé par le fait que j'ai étudié depuis 5 ans Durkheim à Bordeaux. Et je n'ai pas encore étudié Durkheim à Paris. Donc peut-être qu'à Paris, le prochain, ou on verra. Mais oui, ça serait logique, avec une couverture rouge, une autre bibliothèque, Durkheim à Paris. Pourquoi pas, dans 5 ans.
Mais, rendez-vous dans 5 ans. Donc.
Mais disons que oui, je découvrirais peut-être des choses que j'avais sous-estimées dans ce que je sais de Paris. Mais... Si on regarde, par exemple, les cours qu'il a fait à Paris, on en a la liste aussi, ils ont également été perdus. Ça n'a pas bougé. Il a repris les cours de Bordeaux.
D'accord.
Voilà, il a arrêté...
Il n'a pas produit de nouveaux cours à Paris ?
Non, pas à ma connaissance.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait, alors ? Trois heures par semaine, comme à Bordeaux.
On imagine bien Durkheim glandant un petit peu, mais non.
Non, c'était pas ça.
Non, ce qu'il faisait, je sais pas ce qu'il faisait encore. Tu m'interroges sur un livre que j'ai pas écrit, mais qu'est-ce qu'il faisait Comme tu dis, il avait pris des responsabilités à la Sorbonne, ce qu'il avait pas du tout fait à Bordeaux. À Bordeaux, il se sentait pas à l'aise avec ses collègues, il se sentait un peu isolé.
C'est une vie de moine à Bordeaux.
Ouais, il a vraiment une vie de moine. Ouais. Et à Paris, il a eu une sociabilité, je pense, plus forte, beaucoup plus forte. Il participait à la société de philosophie. Il acceptait d'aller à ce qu'on appellerait maintenant des colloques, en fait. À Bordeaux, il a jamais fait ça. Il était chez lui. Alors, il avait 2-3 copains. Il avait un copain qui s'appelait Octave Hamelin, un grand philosophe de l'époque. Qui était son copain. C'est difficile d'imaginer Durkheim avec un copain, mais avait une relation soutenue avec Hamelin. Et Hamelin, moi je suis en train d'étudier tous les livres qu'empruntait Hamelin. C'était un fou. C'était un spécialiste de Descartes, d'Aristote et de Kant. Et quelquefois, il allait à la bibliothèque, il ressortait avec 80 livres. Vous imaginez 80 livres un jour, comme ça. Durkheim, il plafonne à 4 livres. Et puis lui, enfin, le plafond de Durkheim, c'est 80 livres en un an d'emprunt. Hamelin, il ressortait en un jour avec 80 livres.
Donc,
tu vois les copains, quoi.
Oui.
Alors à Paris, je ne sais pas trop comment il a
occupé,
mené sa vie. Je pense qu'il a plus vu
journées.
Les collègues de l'année sociologique, parce qu'il avait quand même organisé un réseau. Mais c'était, comme disait Fabiani, qui était un prof de socio à Paris, c'est un réseau postal, beaucoup. Il avait une correspondance énorme, Durkheim. Il correspondait avec plein de gens. Je crois qu'il, comme Freud, dont on a gardé toutes les lettres, malheureusement, celle de Durkheim... On a du mal à les retrouver, il faut trouver les destinataires, on peut l'avoir dans ce sens-là. Mais c'est des gens qui écrivaient sans doute 2 à 3 heures par jour de courrier. Vous voyez, donc à un moment, il dit dans une lettre à son neveu, parce que toutes les lettres à son neveu ont été publiées, parce que le fonds Mauss, lui, existe. Et à un moment, il dit bon, je te laisse, Louise m'appelle, il est 10 heures, je dois me coucher.
D'accord. Donc, une vie, dans le cadre de l'université, qui n'est pas très, très développée. Ailleurs aussi, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de très curieux intellectuellement. Il ne va pas au théâtre, quasiment pas.
Non.
Il ne enfin, voyage pas.
C'est un peu difficile, si tu veux, de savoir s'il allait au théâtre. Hein. Il faudrait...
Déjà, mais tu cites des passages où il donne des avis sur l'art et sur le théâtre qui sont assez négatifs, qui sont les avis de quelqu'un qui voilà n'est pas ouvert sur d'autres sphères d'intérêt que son étude
philosophico-sociologique. Ouais. C'est vrai. Il y a quelques écrits sur l'art. Donc un cours qui a été retrouvé qui s'appelle l'éducation morale, qui est un cours. C'est des leçons. Il y a 22 leçons sur ce qu'il faut enseigner aux enfants. Et il y a la dernière leçon sur le fait qu'il ne faut surtout pas enseigner les arts aux enfants, parce que ça détourne de la réalité, et la seule chose qui compte, c'est la réalité, et la science peut confronter l'enfant à la réalité, mais l'art, non, ça l'en détourne. Donc effectivement, il paraît même qu'il empêchait sa femme de jouer du piano, il y a un témoignage comme ça... mais qu'il faut remettre un peu en cause, parce que dans une lettre, il écrit à Mauss « Ta tante est en train de jouer du piano avec une amie ». Donc visiblement, il tolérait aussi qu'elle joue du piano.
Il est allé en Allemagne.
En 86.
En 86. Il arrive à Bordeaux et je me suis posé la question, pendant sa période bordelaise, 15 ans, est-ce qu'il a voyagé à l'étranger ?
Non.
Non. Et non. Ensuite ?
La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il remontait dans sa famille à Épinal, à Pâques, pour la Pâques juive, et puis l'été.
D'accord, voilà.
Alors après, des voyages...
Parce que le voyage en Allemagne aurait pu lui donner l'envie aussi, par la suite...
Non, il en garde un très très mauvais souvenir, il le dit à son neveu, il lui dit grosso modo que ça l'a traumatisé, mais qu'il a bien fait de s'accrocher parce qu'il a appris beaucoup de choses. Mais il a souffert pendant 6 mois en Allemagne. Et je crois qu'il a été une fois en Angleterre.
Et ah oui, il a été en Angleterre.
Je crois qu'il a été une fois en Angleterre. Il faudrait que je vérifie. Et une fois en Italie, je crois.
Mais vraiment, c'est tout. Mais pendant la période bordelaise ?
Non.
Non, pas pendant la période bordelaise. Donc il est resté vraiment sur Bordeaux, faire des allers-retours Bordeaux-Paris en prenant la gare.
Parce qu'il faut savoir que Bordeaux-Paris, c'est quand même 10 heures de train. Hein,
10 heures de train, oui.
À l'époque.
Le temps de lire, oui. Une dernière question. Alors, c'est la question peut-être la plus difficile. On en a discuté un peu ensemble. Lorsque j'ai lu ce livre, je me suis demandé si Durkheim avait été à Toulouse, si Durkheim avait été à Montpellier, s'il avait été à Lyon, est-ce qu'il aurait produit les mêmes ouvrages, les mêmes travaux ? Est-ce qu'il y a, en quelque sorte, une spécificité bordelaise dans l'œuvre de Durkheim ? Finalement, est-ce que Bordeaux a fait quelque chose à Durkheim ?
Ouais, c'est une question assez redoutable. Je pense que... Donc j'ai eu le temps d'y réfléchir un petit peu. parce que tu as eu la gentillesse de me la dire, celle-là. Parce qu'elle est assez violente. C'est très difficile de savoir ce qui est spécifique à Bordeaux et qui a pu l'influencer. Je dirais que d'une manière, c'est pas Bordeaux, c'est d'une manière importante, c'est le fait d'être en province qui a été très important. Alors ça aurait pu être peut-être à Montpellier, à Toulouse, comme tu dis. Ouais. Le fait d'être si éloigné de Paris, le centre culturel et philosophique surtout, je pense que ça lui a permis de développer des idées qu'il n'aurait pas pu développer à Paris, dans cette espèce de brouhaha intellectuel où il faut finalement très conformiste, où il faut toujours suivre, marquer à la culotte les autres. Et là, je pense qu'il était, assez peinard. Et il a pu inventer des cours, et il a pu inventer des théories intéressantes. Donc voilà, je dirais que ce serait plutôt ça, c'est le fait d'être à la marge.
Un contexte de province, alors.
Voilà, c'est plutôt la province.
Bordeaux est une ville provinciale.
Ouais.
D'accord.
Enfin, c'est mon sentiment de Parisien.
Très bien.
Ça te suffit comme réponse ?
Oui, mais j'aimerais le citer avant de terminer. « Si terne qu'ait été par certains côtés mon existence à Bordeaux, j'y tenais et elle me tenait. »
Ouais, ça c'est, il a une grosse dépression en arrivant à Paris, en fait. Là, il raconte ça à Hamelin, son copain de Bordeaux. Il lui dit ça. En fait, il fait tout pour que Hamelin vienne avec lui à Paris. Et l'année suivante, Hamelin a une mutation à l'école normale supérieure à Paris. Il n'arrivait pas, donc il a réussi à... Donc je dirais que peut-être, alors ça répond peut-être à ta question, mais alors là, c'est vraiment une hypothèse. Pour Durkheim, Bordeaux, c'était avant tout certains collègues. C'était des hommes. Et Hamelin a joué un rôle essentiel pour lui. Mais il y en a d'autres. Il a fait des rencontres très intéressantes, je pense, peut-être même avec des gens qu'il n'aimait pas, a priori. Des historiens, des juristes. Il y a le lien avec Duguit, qui est très important. Avec des mathématiciens. Il a été ami avec Adamar, qui est un grand mathématicien à l'époque. Et puis il y avait un physicien qui s'appelait Duhem, hein, qui a été aussi un historien de la physique, qui a été placardisé, alors là on peut le dire, à Bordeaux, parce qu'il était en fait anti-républicain, et dès qu'il demandait une mutation sur Paris, on lui disait « Toi, t'es pas un bon républicain, t'iras pas à Paris. Hein, » Il y avait quand même, c'était très contrôlé, hein, politiquement. Il y avait des enquêtes sur les profs, hein, il y a des renseignements confidentiels sur les profs, hein, le recteur enquêtait, le doyen enquêtait, et je peux vous dire qu'on les a encore, ces dossiers, c'est dans les dossiers personnels des profs, ils étaient vraiment très très contrôlés, beaucoup plus que nous. Nous, on ne l'est pas, enfin, je pense pas.
On le découvrira peut-être un jour. Pour finir, l'université à Bordeaux a honoré Durkheim. Je connais un amphithéâtre, Émile Durkheim, je connais une cité universitaire, Émile Durkheim.
La fac de droit, il y a un amphithéâtre
Non, à... Ségalène, il y a un amphi Émile Durkheim, je me souviens y avoir eu des cours. Il y a une cité universitaire, il y a un laboratoire Émile Durkheim. Et la ville de Bordeaux, quand va-t-elle honorer Émile Durkheim? Quand une rue Émile Durkheim à Bordeaux? Comment?
Il y a une rue Duhem, il y a une... Oui, oui, c'est vrai.
À quand? Il faudrait peut-être lancer une pétition, là.
On peut lancer une pétition. J'ai envoyé le livre à Juppé. Donc peut-être que ça lui donnera des idées. Je pense qu'il le mérite.
Oui.
Et je pense que Bordeaux le mérite aussi.
J'ai écrit à la commission de géographie pour leur proposer suite à la parution de ton bouquin.
Très bien, très très bien.
Voilà, il faut. Dire.
Il va falloir débaptiser une rue alors pour faire la place à Durkheim. Ah, il y a des rues neuves. Oui, ouais, mais il faut quand même une rue.
Alors à Paris, il y a une rue Durkheim qui a été ouverte le long de la BNF. En 95. Oui, c'est tout près de là où j'habite, avec un discours inaugural de Boudon, qui a été Raymond Boudon, qui a été chargé de faire le discours, et je te l'ai montré une fois. Hein. Ce discours est très très méchant sur Durkheim. Et il paraît que la famille qui était invitée, les descendants qui étaient invités, ont été hyper choqués. Donc vous voyez, on a réussi à honorer tardivement Durkheim à Paris, et ça s'est mal passé.
Mais si on l'honore à Bordeaux, ça se passera bien.
Bon bah...
Donc il nous reste à te féliciter pour le livre et puis pour les réponses dans le cadre de la conférence.
Et moi, vous remercier.